Qu'est-ce que le monde de l'influence ? Eh oui, vaste question, n'est-il pas ? Quelle distinction peut-on faire entre la création de contenu et l'influenceur ? Quel est l'univers du décor ? Comment est organisé ce travail ? Comment et combien est-il rémunéré ? Pour le savoir, c'est Florian Siché, alias l'Instant Voyage, 22 700 abonnés environ sur Instagram, qui va tenter de vous répondre. Bonjour et bienvenue dans Where is Brian. Aujourd'hui, nous allons parler des créateurs de contenu et plus largement, nous allons ouvrir une page consacrée à des créateurs et créatrices de contenu dans laquelle nous allons recevoir plusieurs de ces personnalités qui font vivre, qui montrent et qui démontrent à quel point la Normandie peut être créatrice. Aujourd'hui, on commence avec Florian Siché, bonjour.
Bonjour Brian.
Plus connu sous le nom de l'Instant Voyage, qui vient nous parler donc de ses activités et de son actualité, puisqu'il va nous parler de tout ça en ce début d'année. Bonjour Florian.
Bonjour Brian.
Tu te sens bien là aujourd'hui, ça va ?
Impeccable, un peu fatigué, mais ça va.
Un peu fatigué, mais ça va. La période, elle est intense pour les créateurs de contenu pendant la période de Noël, non ?
Bah, les plus gros mois pour nous, c'est juillet et août, et puis le mois de décembre avec le calendrier de l'Avent, donc c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'on est demandé de partout, on ne s'attendait pas à avoir autant de travail, mais c'est le principal, tant mieux.
Donc ouais, pas mal d'activités. Des calendriers de l'Avent, oui, je vois ça, des concours qu'on fait un petit peu...
Oui, l'année dernière, on avait fait un chaque jour. Donc là, on a commencé au mois de novembre pour essayer d'avoir un peu plus de qualité et beaucoup moins de quantité. Donc en plus, il y aura des concours avec toi. Donc c'est le principal.
Bah, vous nous retrouverez, hein, vous nous retrouverez toujours hein, rapidement, toujours prêt à fournir du contenu et des choses pour vous épanouir. Non, pas pour vous épanouir.
Oui, bah on essaye de faire toujours plaisir aux gens, d'essayer de mettre en avant des gîtes ou des hôtels ou des endroits insolites pour essayer de faire voyager les gens malheureusement qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir y aller.
Et c'est pas forcément en Normandie, ça peut être ailleurs.
Ça peut être partout.
Ça peut être partout.
Ça peut être partout.
Ouais, en fait, ta zone d'attraction, ta zone d'activité, elle se concentre majoritairement en Normandie, mais tu peux aller partout.
Ça veut dire que depuis 2 ans et demi, donc moi je viens de région parisienne et ma femme, elle est de Normandie. Donc maintenant, ça fait 6 ans qu'on habite à Rouen. Et donc, on est ambassadeur des Yvelines Touristes plus de choisir la Normandie. Donc, on essaye de développer la Normandie, la région parisienne et maintenant les Hauts-de-France. Et les concours peuvent aller partout en France. Et depuis cette année, on s'est ouvert à l'Europe. Et il y aura d'autres choses l'année prochaine qui arriveront en Europe et dans le monde entier.
Ah, peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure.
Peut-être.
Si c'est peut-être. Hein.
C'est sûr et certain même.
Comment tu définirais ton métier ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien un petit peu dans cette société, les personnes ont un peu du mal à définir ce que tu fais, ce qu'on fait. Certains peuvent nous appeler des influenceurs, surtout même des influenceurs, ou soit des créateurs de contenu, ou soit, disons-le clairement, pour certaines personnes, des personnes qui glandent et qui se pavanent partout avec une caméra et qui filment sans aucun budget. Toi, comment tu le définirais ?
Alors, des fois, c'est un peu compliqué avec certaines institutions. Ils nous prennent tous pour des influenceurs. Moi, je me considère pas comme un influenceur parce qu'on est plus créateur de contenu. On n'influence pas les gens. On leur crée de la visibilité. On met en avant des monuments, plein de choses. Et le souci, c'est que les gens ont du mal à assimiler. Comme tu dis, ils pensent qu'on fait rien, on va dans les beaux hôtels, on glandouille. Alors qu'au final, c'est un métier qui est très compliqué. Bon, la nouvelle génération, les jeunes, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ils ont compris le système. Et les personnes qui sont un peu plus âgées ont du mal à connaître notre métier. Et puis, le souci, c'est que pour eux, tu prends une photo, tu la poses, c'est fini. Alors que malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il y a du boulot derrière, comme toi, comme pour ton interview, c'est assez compliqué.
Je pense qu'on a tous en mémoire un peu la référence. Tu me diras si tu l'as, c'est cette fameuse interview de Squeezie chez Thierry Ardisson, où il s'est fait passer vraiment pour un glandeur, en fait, il tournait des vidéos dans sa chambre, alors qu'en fait, pas du tout. Il appartenait déjà à une société dans laquelle il avait un studio, puisqu'il est chez Webedia, je crois, de mémoire, et tout ça nécessite de sacrés budgets, énormément de déplacements. Je vois dans ce que tu fais, toi et Roman, vous vous déplacez partout, d'ailleurs, bon, principalement dans la région parisienne et en Normandie, mais vous vous déplacez partout et donc vous passez pas du temps à vous pavaner, il y a du montage, il y a énormément de travail, que ce soit sur place, en amont et après. Donc,
Bah là, on a été contacté par le train nomade pour mettre en avant le marché de Noël de Caen à la dernière minute. Donc, on était obligé de changer notre plan parce qu'on devait aller à Amiens. Au final, on a décalé à la semaine prochaine. Et on est partout en général un week-end ou deux par mois. On est toujours pris. Là, on est complet jusqu'à mi-mars déjà l'année prochaine. Et après, il y aura un gros dossier en exclu que je t'annoncerai. Ou t'es même au courant. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que surtout, des fois, on est rémunéré. Mais en général, tous nos déplacements et autres, on les paye de notre main propre. Donc, c'est un petit peu compliqué niveau financier. Heureusement que derrière, on a une entreprise.
Il y a l'essence et tout ça, voilà, ça augmente. Voilà,
bien. Puis tout augmente, t'as le train, t'as l'essence, ou t'as les hôtels quand il faut dormir. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on essaye après d'en vivre. J'espère que d'ici quelques années, on pourra en vivre.
Et comment tu décrirais, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est surtout ça ce que je veux que l'auditeur entende. Comment tu devrais décrire, par exemple, une journée typique bien chargée chez un créateur de contenu?
Alors, une journée typique, tu te lèves pas à midi ou à 13h.
Ouais, déjà.
Tu te lèves, on va dire, 7-8h. Tu prépares, tous tes projets sur ta journée. Tu fais ton montage, photos, de vidéos, t'écris tes textes, t'appelles, tu démarches. Des fois, t'as plusieurs visios dans la journée. Faut rappeler des fois les gens. Des fois, t'as des gens qui te signent alors qu'au dernier moment, ils veulent plus de toi et qui reviennent après. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, on n'a jamais le temps de se lasser. C'est une fois que t'es passé à quelque chose,
tu repasses à une autre.
Tu repasses à une autre directement.
T'as pas de routine.
Non, t'as jamais de routine. Et au final, faut toujours se projeter. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, je sais que tout à l'heure, on a un autre tournage pour un concours. Il faut que tu te reprojettes. Le lendemain, t'as encore autre chose. Faut que tu te reprojettes. Donc c'est un petit peu complexe. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aucune routine. Tous les jours, c'est toujours différent.
T'as commencé en 2020, c'est ça?
Oui, pendant le confinement.
Ouais, c'est ça. Tu viens un peu d'où? Raconte-moi ton histoire. Comment ça t'est venu, en fait, avec ta femme Romane, de créer, en fait, cet environnement? T'as une passion toujours pour le voyage. Je sais que t'as voyagé beaucoup, mais en gros, comment ça t'est venu, tout ça?
Alors, franchement, je vais pas te mentir, je suis pas du tout réseaux sociaux.
Ouais.
Pendant le confinement, il y a un pote qui m'a dit « Vas-y, essaye, les gens sont chez eux, vont regarder, donc lance-toi. » Je me suis dit « On va se lancer. » Et j'avais rien dit à ma femme, donc c'était un secret. Donc je l'ai fait tout seul et j'ai vu qu'au début, ça a vraiment très très bien pris. Donc je me suis dit « On va continuer. » Et Roman, je l'ai ajouté avec moi depuis un an et demi.
Okay.
En fait, le souci, c'est qu'on était sortis de confinement, il y avait qu'une place. Et elle a pas pu venir parce que la personne a refusé alors qu'on était deux. Donc maintenant on est passé en couple sur Instagram, ce qui est beaucoup plus facile que quand t'es tout seul. Mais au final, je viens pas du tout de ce monde-là. Avant j'étais dans le commerce et vu qu'on voyageait énormément à l'étranger, du fait que le Covid ça nous a coupé dans notre élan pour voyager, donc on s'est dit on va mettre en avant tous les lieux en France qu'on connaît pas.
Et donc, tu as voulu, en fait, garder cette fibre voyage, en fait, tout en restant enfermé chez toi.
Exactement.
En étant condamné à rester
exactement, parce que c'est vrai, comme beaucoup de Français, on part souvent à l'étranger parce que c'est beaucoup moins cher. Et c'est vrai qu'on a découvert la France. La France est vraiment très, très belle. Il y a des endroits à 5-10 minutes de chez nous qu'on connaissait même pas. Regarde la preuve, on habite à Rouen. Les gens ne connaissent pas les monuments à Rouen alors qu'ils y habitent.
Ah bah, cette anecdote à laquelle tu parles, moi, je suis très franc. Vas-y, tu peux la raconter.
Non, c'est vas-y, moi qui je te laisse, ouais, vas-y.
D'accord. Il m'en voudra pas, je l'embrasse, mais je suis obligé de penser à ça. C'est mon cousin qui, on avait un rendez-vous une fois, on s'était donné rendez-vous devant l'Être Saint-Maclou, qui est donc situé rue Martinville. L'Être Saint-Maclou qui est d'ailleurs un immanquable à Rouen qu'il faut à tout prix visiter, hein. Et du coup, en fait, on s'était donné rendez-vous donc à l'Être Saint-Maclou, et en fait, mon cousin débarque et fait ben, j'arrive même pas à trouver, je savais même pas qu'il y avait quelque chose, un truc au milieu là de maisons à colombages, et il fait c'est quoi? Oui, ben, tu connais pas l'Être Saint-Maclou? Il fait non, ça fait 29 ans que j'habite à Rouen, mais je connais pas l'Être Saint-Maclou. Et donc en fait, Au-delà de ça, c'est vrai que ça démontre que même dans sa ville, on peut en découvrir des choses encore souvent et qu'on peut s'émerveiller effectivement de voir pas mal de choses près de chez soi.
Et tu sais que ton cousin n'est pas le seul, ça fait déjà une dizaine, une quinzaine de personnes qui ne connaissent pas, alors qu'ils habitent dans la ville. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens qui nous remercient parce que des fois, tu as des petits endroits méconnus, comme toi, tu as été à Gerberoy et d'autres petits villages que les gens ne connaissent pas et qui peuvent aller visiter.
Mais c'est ça qui est fabuleux. Et je pense que c'est très bien que tu te sois ou qu'on se soit mis sur ce terrain-là, puisque c'est des valeurs qui sont importantes. Ça permet d'être plus écologique dans ses moyens de locomotion. On émet moins de carbone. Et donc, du coup, on s'intéresse aussi à des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal, puisqu'on est un peu dans son train-train quotidien, métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire. Et puis donc, du coup, on ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a autour de nous.
Oui, mais c'est vrai que depuis qu'on a été confinés, d'un côté, t'as du positif parce que les gens revisitent des endroits méconnus ou qu'ils ont connus vraiment tout petits. Donc c'est vrai que le but pour nous est de remettre en avant bah, tous ces monuments ou toutes ces villes. Donc c'est ce qui fait notre force. Et je trouve que y a beaucoup de personnes qui nous font confiance, comme des offices de tourisme, pour les mettre en avant.
Qu'est-ce que tu préfères en Normandie? À voir, à visiter, c'est quoi ton monument, ton endroit préféré?
Voilà, bonne question. Bah, j'ai pas fait tout le tour de la Normandie. Il nous manque encore le Cotentin à visiter normalement l'année prochaine. Rouen. Je vais pas te mentir parce que c'est vraiment un coup de cœur cette ville-là, vu qu'on y habite depuis 6 ans. Et sinon, bah, Honfleur, qu'on aime beaucoup, et Étretat.
Un vrai Parisien.
Et
Voilà,
toi, Brian?
c'était pour la vanne. Moi, qu'est-ce que je
Ouais,
préfère
en Normandie.
en Normandie? Alors, bon, Rouen, bah, évidemment, la ville qu'on promouvoit le plus, parce que c'est une ville à laquelle. Mais c'est pas moi qu'on interview, monsieur. Hein, mais bon,
Non, mais je veux savoir
non,
ton
mais
ressenti.
non, bah voilà, c'est une ville où c'est la ville de mon enfance, où je suis. À laquelle je suis vraiment profondément attaché depuis toujours. Faut savoir que moi, quand je quittais Rouen, quand j'étais petit, pour retourner à Tours où j'habitais le reste de l'année, je pleurais. Parce qu'en fait, voilà. Mais il y a un grand attachement à la ville, en fait. Et en Normandie, je te dirais le Bec et Loing. Le Bec et Loing qui est vraiment.
Magnifique.
Je recommande ça à tout le monde, c'est dans l'heure. Alors par rapport à une grande ville dans l'heure, c'est compliqué parce que j'allais dire c'est toujours un peu c'est un département très rural, mais on va dire à l'ouest d'Évreux, à une
Ouais.
trentaine de kilomètres,
C'est ça.
c'est ça, hein.
Bah, nous, on l'a visité il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de février-mars. On me l'avait recommandé depuis 2 ans, et c'est vrai que c'est vraiment une pépite. Même les maisons sont magnifiques, et l'abbaye est
Ouais.
exceptionnelle, franchement.
Mais il y a beaucoup de pépites dans l'heure, hein.
Oui.
Je pense à tout ce qui est Brionne, même Acquigny, Gisors.
Bah, tu vois, Acquigny-Gisors, on l'a toujours pas fait.
Ouais.
Je sais qu'on a fait le château de Beauménil. Et
Ouais.
juste sensationnel. On a fait le domaine d'Harcourt. Là, cette année, on a fait le château du champ de bataille, qui est magnifique. Et c'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup de pépites dans l'heure. C'est souvent décrié et pas assez mis en avant. Et c'est vrai que même en Normandie, t'as beaucoup de beaux endroits à visiter.
Bah, on pense, tu as dit à Étretat ou Honfleur, assez justement, je peux peut-être rajouter Veules-les-Roses, même tout ce qui est autour de Quillebeuf-sur-Seine, le Marais Vernier, enfin,
Oui.
beaucoup, beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à voir, hein.
Et
Tout ne va pas me revenir, hein,
puis
tout
tu
de
vois,
suite.
même Pont-l'Évêque, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps ensemble. Je trouve que c'est sympa comme ville à visiter.
Bah, tout ce qui est finalement, c'était une partie que je connaissais pas vraiment, dire le Pays d'Auge, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Lisieux, Pont-l'Évêque, Beuvron, Beaumont en Auge. Tout ça, c'est vraiment à voir et à visiter. Et si vous êtes en plus rouennais ou relativement normand, plus côté Haute-Normandie ou même basse, ça reste assez proche, quoi.
Oui,
Donc,
mais c'est bien maintenant, il n'y a plus de débat entre la Haute et la Basse Normandie.
si tu peux savoir à quel point ça nous soulage.
Parce que moi, vu que j'étais de région parisienne, j'entendais à chaque fois, oui, mais je suis de la Basse, mais moi, je suis de la Haute. Au moins, tout le monde est regroupé maintenant.
Ouais.
Mais il y a quand même toujours des petits accrochages entre les deux.
Oui,
Beaucoup moins qu'avant, quand même.
il y a même aussi, mais moi ça me fait marrer, c'est cette histoire du Mont-Saint-Michel. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. C'est-à-dire que t'en as toujours qui croient aujourd'hui que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Non, mais dans quel monde vous vivez, les gens? Non, mais pardon.
Mais ça me fait rire parce que ce que j'ai entendu, c'est que t'as toujours pas visité le Mont-Saint-Michel.
Bah non, puisque malheureusement pour moi, c'est très peu accessible, dans un sens où même, enfin, si on devait être deux, j'y arriverais toujours pas, en fait.
Mais ça, comme on t'a dit, on le fera en 2023, donc tu pourras le
Ouais,
visiter.
c'est ça. Parce que donc du coup, on sera trois,
Même plus que ça,
voire
je pense.
quatre, voilà. Et effectivement, dans ces conditions, ça me permettra de visiter donc un des monuments les plus visités de France, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et qui ne m'est pourtant pas accessible dans des conditions correctes. Il faut le rappeler.
C'est vrai que moi, je l'ai fait il y a 12 ans. Je m'en souviens, c'est juste magnifique.
Ouais.
J'ai pas fait l'abbaye à l'intérieur, mais ça a l'air d'être exceptionnel, l'abbaye.
Ouais. Ouais, on le fera. Et d'ailleurs, tu peux le dire, mais on fera des vidéos, des
Ouais,
réels, plein de
on
choses
fera
comme
tout
ça.
ça. Ce sera mis en avant, bah, sur nos deux pages Insta, je pense, courant de l'année prochaine, avec d'autres surprises en commun.
Bien sûr, mais tu garderas une annonce pour la
Oui.
fin. Je te laisserai faire ça
Pas de
avec
souci.
ton grand talent. Je voulais savoir, beaucoup de gens veulent devenir créateurs ou créatrices de contenu parce que, selon l'adage, le même stéréotype, ça serait facile, tu peux gagner plein de thunes. On a vu là, mais c'est quoi cette vidéo? Comment il s'appelle ce gars-là, Jean-Philippe, je sais plus qui. C'est un mec qui se met avec un costume là et qui se monte avec une belle bagnole, etc.
Ah oui.
Faites comme moi, mettez-vous sur YouTube et gagnez plein d'argent et qui se monte avec une voiture de location, hein, bien évidemment. Enfin, je veux dire.
Ah, j'ai vu une fois ça.
Et que donc en étant créateur ou créatrice de contenu ou en générant en fait des revenus via du Bitcoin ou de je ne sais pas quoi, tu serais en capacité de gagner de l'argent sans rien faire et sans rien produire et en restant chez toi en jouant à la PlayStation. Tu donnerais quoi comme conseil à des gens qui veulent sérieusement s'investir en tant que créateur ou créatrice de contenu?
Alors malheureusement, l'argent, c'est très compliqué à en vivre et même à en gagner. Il faut être vraiment, comment dire, constant, être toujours dessus, travailler tous les jours dessus. Parce que si t'arrêtes pendant une semaine ou un mois, les gens t'oublient. Ils veulent toujours de la nouveauté, toujours de la mise en avant. Donc nous, ça va faire bientôt 3 ans qu'on est toujours constant. C'est un travail H24. Les stories, t'es obligé de mettre au moins une ou deux par jour. Les posts, un ou deux tous les jours. Donc c'est vraiment très très compliqué. Des fois c'est usant, surtout quand t'as un travail à l'extérieur. Si c'est 100% ton métier, ça va. Mais c'est vrai que pour en vivre, nous on vient de passer on arrive à 22 000
C'est ce que
abonnés.
j'allais te demander là.
Et franchement, bon, j'ai vu quand même une petite différence depuis qu'on a passé un certain cap. Maintenant on arrive quand même à se faire rémunérer, soit en bon cadeau, ou des fois t'es invité dans certains hôtels.
Mais justement, alors si je compte en valeur, parce que je vais te poser franchement la question, mais c'est bien pour que les gens s'en rendent compte. Si on devait faire, alors pas précisément, mais je veux dire, si on devait faire une fourchette en comptant de ce que t'as gagné cette année, ça serait quoi, à peu près, pour que les gens se fassent une idée, en une fourchette, hein.
Moins de 500 euros.
Ouais, non, mais oui,
Voilà.
voilà,
Donc,
c'est ça.
je sais que oui, on est rémunéré, on va dire, sur certains hôtels ou gîtes, bah, t'as une nuit gratuite.
Oui, c'est une forme de
C'est
rémunération.
une forme de rémunération, mais t'en vis pas. Tu viens juste, bah, profiter de ta nuit ou ton week-end pour faire une mise en avant, mais après tu payes ton essence, tu payes tout ce qui est nourriture. Donc au final, ça te coûte plus que ce que tu gagnes.
Oui, donc au final, tu vis moins de 500 euros, mais si tu mets, en fait, oui, donc en fait,
Oui, avec les charges et autres,
t'as dépensé de l'argent.
on a dépensé bah, le double, triple ou même plus que
Oui,
ça.
bah, de toute façon.
Donc c'est pour ça que nous, il y a beaucoup de jeunes qui t'envient ou qui nous envient. Mais pour gagner de l'argent, c'est très compliqué. Après, je pense que plus t'augmentes, après les abonnés ne veulent rien dire, parce que t'as des gens qui achètent des abonnés aussi.
Voilà, ouais,
Donc et ça, on a eu un gros débat là-dessus. T'as des gens qui achètent, t'as des gens qui escroquent. Et malheureusement, on en connaît certains qui sont mis en avant et qui arrivent bien à s'en sortir.
oui.
Et t'en as d'autres qui sont, comment dire, corrects ou réglo. Au moins, je préfère être dans cette catégorie-là parce qu'on va mettre plus de temps, mais notre travail paye.
Alors, faut dire qu'il y a, pour enchaîner sur ce que tu dis, comme ça tout le monde est au courant, il y a deux choses. Il y a donc il y a donc le, on achète de la publicité via Meta, ça c'est la méthode légale, voilà. C'est donc c'est de l'achat en fait de sponsors, ça permet de gagner une visibilité supplémentaire qui est générée par l'hébergeur, donc Meta quand on parle d'Instagram ou ByteDance quand on parle de TikTok. Et effectivement, il y a la deuxième catégorie où là on est plus donc sur alors c'est plusieurs choses parce que c'est en fait ils ont tendance à se diversifier hein, comme tout ce qui est juteux, qui est donc de l'achat direct d'abonnés, c'est-à-dire que on va payer en général un autre compte pour générer en fait une armada de faux comptes qui va s'abonner à ton profil, ou soit on paye, ça c'est ce qui se fait le plus ces derniers temps, on paye un gros compte qui a une certification, elle aussi souvent achetée, pour faire en fait une collaboration avec eux, sachant que le nombre d'abonnés est déjà bidon de leur côté. Et donc comme ça, ça leur permet de passer sous les radars, puisque la politique, tu me diras si j'ai tort, il me semble qu'Instagram a commencé à faire un peu la police sur le sujet, non? C'est ça?
Oui, il serait temps à force.
Ouais, il serait temps.
Et certains gros comptes ou petits comptes qui ont quand même été fermés du fait des achats illégaux.
Ouais, parce que c'est ça qu'on parle en fait. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une situation où, tu me disais ça, je crois, l'autre jour, où on se trouve, en fait, maintenant, les commerçants, les artisans, les centres commerciaux, ils ont plus tendance à vouloir travailler avec des plus petits.
Oui. Maintenant, on nous a dit qu'ils veulent. Les gros comptes ont beaucoup plus de mal, donc ils veulent prendre des gens qui sont en dessous de 50 000 ou même en dessous, parce que les gens sont plus honnêtes et sont plus
en train de chercher une certaine forme de sincérité.
Voilà,
peut-être.
Plus une sincérité. Mais après, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, t'as des gens qui arrivent à 10 000 très rapidement, et en fait, quand tu vois le taux d'engagement, parce que
rappelle ce que c'est le taux d'engagement.
Le taux d'engagement, bah c'est le nombre de commentaires, le nombre de participations, le nombre de personnes qui te repartagent ta story. Et au final, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont énormément de vues, des fois qui ont presque aucun commentaire, et que leur taux est à 1 ou 2%. Ouais. Nous, je sais qu'on doit être à 7 ou 8 ou 9, je sais plus. Et en fait, les entreprises maintenant vérifient ton taux d'engagement. Parce que t'as beau avoir 50 000, 100 000 ou 200 000 abonnés ou 10 000, si t'as un taux d'engagement à 1, c'est pas crédible.
Bah, ce qui est typique de ça, c'est quelqu'un qui aurait un réel à 2 millions de vues et que il aurait qu'une centaine de likes.
Et ça, il y en a beaucoup, malheureusement.
Et ça, il y en a beaucoup, oui.
Voilà. Nous, on en connaît plusieurs. Et après, je sais qu'il y en a d'autres comptes qui ont 1,5 million de vues et qui font du 25 000 j'aime. Alors que là, c'est plus authentique.
Et justement, ce qui est intéressant dans cette histoire, pour prolonger un peu ce que tu dis, ça n'ajoute pas une forme de discrédit à votre travail, dans quelque sorte que des tricheurs en fait viennent, faut dire le mot, puisque c'est voler, c'est du vol, hein, quand on ne fournit pas le service pour lequel on est rémunéré, c'est du vol. Et donc j'imagine que ça doit ajouter une forme de discrédit sur cette profession, même vis-à-vis des gens honnêtes.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, il y a certains qui démarchent des entreprises ou des hôtels qui se font passer pour nous, qui nous connaissent. Et on en connaît une fille qui a à peu près 2000 abonnés, que l'autre fois, on l'a vue sur une sortie, nous a posé des questions par rapport à tout ça. Mmh. Et au final, on la voit sur un très, très gros hôtel qui a été prise, et elle a mis en avant l'hôtel. Mais ce qui me fait mal pour les hôteliers ou tout ce qui est gîte, c'est que il donne une forme de prestation. Mmh. Et quand tu vois le contenu qui est rendu, en fait, ça nous discrédite, parce que on a l'impression de faire du mauvais travail. Parce que eux viennent, ils font de la merde, excuse-moi du terme. Mmh. Alors que toi, quand tu passes derrière eux, des fois, t'as des gens qui ont du mal à te faire confiance parce que la personne qui est passée avant a fait n'importe quoi. Je sais qu'une fois, on devait travailler avec un gros groupe. Et au final, la dame nous a dit « Non, excusez-moi, mais la personne qui est venue avant vous peut pas vous prendre parce qu'elle a fait n'importe quoi. » Elle me dit, je suis d'accord, tout le monde est différent, mais on perd de l'argent. Donc je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est vrai que des fois, on a du mal à avoir la
Oui.
confiance des gens.
Et ce qui est important à rappeler, mais c'est peut-être un petit peu technique juridiquement, mais c'est bien de le faire parce que c'est très important. Pour n'importe qui est sur Instagram ou qui souhaite s'y lancer, si vous vous adonnez à ce genre de pratique et qu'un commerçant, artisan, entreprise, grande, petite, vous contacte pour faire du contenu avec eux qui serait rémunéré, si on vous rémunère mais que votre nombre d'abonnés, votre nombre de likes n'est fake, n'est pas vrai, c'est-à-dire que vous faites déjà d'une de l'usurpation puisque vous prétendez être ce que vous n'êtes pas et donc puisque vous êtes une marque en fait vous-même ou une entreprise en fait pense que vous avez tel nombre d'abonnés et qu'en fait vous n'avez pas. Vous lui fournissez pas le service attendu, largement en dessous, ce qui s'appelle de l'escroquerie et du vol, et c'est condamnable par de fortes amendes et si récidive de la prison. Voilà. C'était pour faire la mise au point parce que je trouve que parfois on se rend pas forcément compte. En fait, il y a une forme. Bah tiens, je voulais te poser la question. Il y a une forme d'impunité sur Internet globalement,
Ah
puisque
oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que tu as des grosses, grosses entreprises qui prennent des gens et qui ont vraiment aucun taux d'engagement. Après, je ne citerai pas une grande marque, une grosse enseigne de voyage. L'autre fois, je suis tombé sur une story, une fille qui a à peu près 160 000, mais qui est, elle se considère comme influenceuse. Rien à dire, mais en fait, elle a emporté deux personnes avec elle qui ont 10 000 ou 15 000. Et que leur taux d'engagement est vraiment nul. Alors pourtant, tu dis, c'est quand même une grosse entreprise qui a misé de l'argent sur eux et que les gens mettent en avant cette entreprise-là. Et tu dis, mince, pourquoi eux et pourquoi pas d'autres personnes qui font même des plus petits créateurs de contenu qui font du meilleur travail. Et ce qui est dommage, c'est que moi, sur Instagram, on voit beaucoup de pépites, des petits comptes à 500 abonnés ou 1000 abonnés qui font du super boulot mais qui sont pas assez mis en avant.
Eh bien, merci beaucoup Florian. Il ne me reste plus qu'à te donner le mot de la fin. Qu'aimerais-tu dire à tes abonnés, à tous ceux qui te suivent, à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui te font confiance et nous font confiance?
Je te donne le mot de la fin.
Merci à toi, Brian, de nous avoir invités. Malheureusement, ma femme n'a pas pu être là parce qu'elle travaille.
On
Oui,
l'embrasse.
on a un travail à l'extérieur. Donc, comme tu dis, depuis bientôt 3 ans, les gens nous ont fait confiance et nous font de plus en plus confiance. Ce qui me surprend même parce que on est demandé de partout. Et je suis content parce que même si on peut pas y aller, des fois on délègue à certaines personnes, comme toi, tu vas à la conférence de presse de l'Armada que je ne peux malheureusement pas y être, mais il y a de la bienveillance, on a découvert des lieux formidables, et même si du jour au lendemain tout devait s'arrêter, faut vivre toujours l'instant présent, et faut se dire que on n'a qu'une vie, et faut penser à soi et pas aux autres, parce que des fois c'est assez compliqué, les gens des fois te souhaitent du mal. Mais reste comme t'es, et surtout, rendez-vous en 2023
Pour de nouvelles aventures.
pour de nouvelles aventures.
Merci Florian
Merci à
Sichet
toi, Brian,
et
vraiment.
à une prochaine.
À une prochaine.